Bonjour. Je vais d'abord peut-être me présenter, me raconter un petit peu et puis on passera au message après. Donc je m'appelle Boros Aladjian. Comme vous l'entendez, je suis donc d'origine arménienne. Je suis donc fils d'immigrés. Je suis né en France, mais mes parents ne sont pas nés en France. Ils ont dû quitter les terres sur lesquelles ils vivaient parce qu'ils ont subi un génocide en 1915. 1 500 000 Arméniens sont morts parce qu'un gouvernement jeune turc a décidé d'exterminer tous les non-musulmans, donc les chrétiens, pas seulement les Arméniens, mais les Grecs, les Assyro-Chaldéens, ont subi le même sort. Mais merci à la France d'avoir accueilli mes parents. Ils ont travaillé. Ils ont beaucoup fait pour leurs enfants. J'ai fait des études supérieures. J'ai été professeur de physique, chimie, dans un lycée. Je suis donc un citoyen et j'ai déjà voté ce matin. Avant de venir au culte. Voilà, je suis marié, j'ai 2 enfants et 3 petits-enfants. Et je suis membre donc de l'église évangélique arménienne de Lyon, qui n'est pas très loin d'ici, à Montchat. Cette église, donc, nous, évangéliques arméniens, nous sommes une petite minorité dans le peuple arménien. Les Arméniens sont en majorité, on va dire, de rite orthodoxe, on dit église apostolique arménienne. 95% des Arméniens sont donc apostoliques, orthodoxes, et nous sommes une minorité d'évangéliques et de catholiques arméniens. Voilà, on représente à peine 5% de cette population. L'église évangélique arménienne n'a pas pris naissance en France, elle a pris naissance là où nous vivions, c'est-à-dire sur nos terres, mais on n'a pas une histoire de 500 ans comme la Réforme, elle est arrivée beaucoup plus tard. Nous avons fêté donc en 2016 les 170 ans, les 170 ans de l'église évangélique arménienne, premier culte à Istanbul, à Constantinople, le 1er juillet 1846. Dieu nous a gardés jusqu'à aujourd'hui et le premier culte a eu lieu à Lyon le 1er juillet ou 1er août 1924 et nous sommes depuis 50 ans rue Paul Didet, donc pas très loin d'ici. Voilà quelques informations concernant donc ma personne et mon appartenance. Dans la mesure où nous faisons partie de la pastorale de l'appel, je connais beaucoup de vos responsables depuis tant d'années et nous nous fréquentons et j'ai bien connu aussi la rue du Noir. À cette époque, il y a 50 ans, voilà, vous étiez rue du Noir et nous, on allait vous voir à la rue du Noir. Et puis, une autre raison pourquoi je suis ici vers vous ce matin, parce que je suis ami avec un certain nombre de frères de votre assemblée, en particulier Eric, en particulier Guy Four, Christian Coinel et quelques-uns d'autres, parce que ensemble, nous gérons des maisons de retraite, l'une à Décines, l'autre à Montmelat. Voilà, donc depuis un certain nombre d'années, nous collaborons et nous sommes fiers ou contents de cette collaboration où nous pouvons aussi annoncer l'Évangile dans nos 2 maisons aux personnes âgées. Donc c'est aussi pour moi aujourd'hui l'occasion de faire un appel aux paroissiens de la rue Sonnera. Si vous êtes intéressé par l'aumônerie, il y a des cultes tous les jeudis matins. Donc, si vous avez envie de participer, d'aller chercher les personnes âgées dans leur chambre, les amener jusqu'au lieu de culte, voilà, on a besoin de bras, de gens dévoués qui viennent pour que ces personnes puissent entendre aussi, dans leurs vieux jours, entendre aussi l'Évangile. Et puis, si vous avez envie d'être membre actif, c'est aussi le moment de vous engager pour que nos maisons continuent à pouvoir exister, parce que les temps sont difficiles et aujourd'hui, les grands groupes veulent tous nous manger. Donc, si on veut continuer à exister, il faut qu'on résiste et que tous ensemble, nous puissions maintenir ces établissements qui ont des particularités d'être aussi des lieux où l'on peut parler de Jésus-Christ. Voilà, donc venez me voir tout à l'heure, je suis prêt à engager aussi le dialogue là-dessus. Donc je ne suis pas pasteur, je suis donc un laïc engagé dans mon église. Je prêche de temps en temps, mais c'est pas ma spécialité. Je suis plutôt engagé dans le travail social de l'Église, aussi bien donc avec les personnes âgées qu'avec les enfants, puisque nous gérons un centre de vacances en Haute-Savoie où on accueille des enfants et des familles l'été et l'hiver pour pouvoir faire du ski aussi. Notre frère a parlé de trous tout à l'heure. Ça m'a fait penser à deux petites histoires que je voudrais vous raconter avant que l'on commence à écouter la parole de Dieu. La première est une histoire vraie que me racontait un de mes aînés. Il racontait que dans son village, au pays, il y avait un homme qui était toujours joyeux et qui, en toute situation, disait « gloire à Dieu ». Gloire à Dieu, c'était son leitmotiv. Et ça énervait un petit peu un certain nombre de personnes. Et un jour, ses amis, malgré tout, ont dit on va lui faire un petit traquenard et on va voir s'il va quand même dire gloire à Dieu. Et ils ont fait un trou. Et en soirée, la nuit tombée, ils ont pris le chemin et ils ont fait en sorte qu'il tombe dans le trou. Et dans le trou, il a dit « Gloire à Dieu !» Donc, ils l'ont aidé quand même à sortir du trou. Et ils ont été intrigués. Ils lui ont dit « Mais comment tu fais pour dire « Gloire à Dieu » même quand tu tombes dans un trou ?» Il a dit « Écoutez, c'est la première fois que j'étais à plat ventre, vers le ciel, et j'ai vu un ciel étoilé comme je ne l'avais encore jamais vu. » Voilà pour cette histoire de trou. Une deuxième histoire de trou, c'est l'histoire d'un âne, peut-être que vous connaissez. C'était un vieil âne. Il était têtu, mais les ânes, ils sont peut-être têtus, mais ils sont intelligents. Et ce paysan qui avait donc ce vieil âne, il ne savait pas comment faire pour s'en débarrasser. Et puis, il y avait un trou profond. Il a dit, écoute, je vais me débrouiller pour le faire tomber dans le trou. Et puis après, ben, je vais le recouvrir et puis c'est fini. Et donc, il a fait en sorte que l'âne tombe dans le trou. Et l'âne, après avoir brayé, on dit, je crois, oui, brayé, oui, oui, bon, ça sonne mal, mais bon. Il est donc tombé dans le trou et le paysan a dit, ben maintenant, je vais le recouvrir avec de la terre. Il a commencé à prendre sa pelle et à pelleter et à jeter de la terre. Au bout d'un certain temps, il n'entendait plus l'âne brayer. Et il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Il est peut-être maintenant bien enseveli. Et puis, il s'est penché. Et puis, il a vu que l'âne, au fur et à mesure qu'il recevait de la terre sur lui, se secouait correctement Ensuite, il piétinait la terre, et au bout d'un certain temps, il était presque arrivé au sommet, donc il allait bientôt ressortir du trou. Donc, par rapport à tous ceux qui sont passés, c'est un cas de plus que tu pourrais citer une prochaine fois. Je crois que le Seigneur est prêt à venir à notre secours, ou bien quelqu'un d'autre. Mais quand on est dans le trou, il ne faut pas se laisser faire. Il faut résister. Il faut lutter. Il faut faire quelque chose et pas attendre que ce soit toujours le Seigneur ou les autres qui viennent à nos secours. Le Seigneur est prêt à faire beaucoup de choses pour nous. Mais il nous demande à nous de faire des efforts. Il nous demande, Seigneur, envoie... Non, peut-être que de temps en temps, il a besoin qu'on tourne nos regards et qu'on essaye de faire quelque chose. Voilà. Venons-en maintenant à ce que j'ai envie de vous parler de la part du Seigneur aujourd'hui. Ce n'est pas un sujet facile que j'ai choisi. J'ai intitulé mon sujet « Mort, où est ta victoire ?» Ou bien encore, le verset important de ce passage, c'est « Je suis la résurrection et la vie ». Mais pour parler de résurrection et de vie, il faut parler aussi de mort. Donc, je vais donc axer mon sujet à partir de la résurrection de Lazare, à partir du chapitre 11 de l'Évangile de Jean. Mais avant, je voudrais aussi lire quelques versets de l'Ancien Testament dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 37, Ézéchiel 37, c'est la vision des ossements. Alors je ne vais pas tout lire, je lis seulement deux versets, les versets 12 à 14 d'Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, 12 à 14. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Je mettrai mon esprit en vous. Et donc, le texte de la résurrection de Lazare, Jean 11. Alors, c'est long, c'est trop long pour... Donc je vais lire seulement les versets 17 à 37. C'est la partie où Jésus dialogue avec Marthe. Jean 11, 17 à 37. Jésus, arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. « Marthe, dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Elle lui répondit, oui, Seigneur, Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent et dirent, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Je vous encourage à lire tout le chapitre quand vous serez chez vous. Le verset central de ce passage, c'est bien sûr « Je suis la résurrection et la vie ». Mais, comme je vous l'ai dit, pour parler de la résurrection, nous devons parler de la mort. Dans Ézéchiel, des ossements desséchés. Dans l'évangile de Jean, un corps déjà en décomposition. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la parole de Dieu nous oblige à regarder la réalité de la mort bien en face. Il faut du courage pour parler de la mort et il nous faut accueillir ce que Jésus nous révèle au sujet de la mort. Avant de parler donc de la mort, je voudrais tout d'abord définir comment je conçois la vie, comment elle est faite. Et pour cela, je m'appuie sur 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est l'apôtre Paul qui dit aux Thessaloniciens « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. » Il parle donc de corps, d'âme et d'esprit. Donc, je considère que la vie est faite de ces trois choses et que quand il en manque une, il manque, ça ne peut pas marcher. Corps, âme et esprit. Qu'est-ce que c'est que le corps ? Ça, c'est facile. C'est notre corps que nous touchons, que les autres voient. Ce corps, il faut en prendre soin, parce que le reste va avec. Hein. On doit prendre soin de notre corps. Mais ce corps est destiné un jour à la poussière, mais c'est aussi le contenant de l'âme et de l'esprit. Alors, qu'est-ce que c'est l'âme ? Pour moi, le corps, bien sûr, c'est pas seulement des cellules merveilleusement agencées par Dieu. C'est vrai que je crois pas au hasard, je crois vraiment que tel que Dieu nous a, que c'est pas le hasard qui nous a fabriqué. Vraiment, ça ne peut être qu'un Dieu parfait qui nous a fait tel que nous sommes. Mais ce corps, il est habité par une âme, c'est-à-dire que l'on peut penser, réfléchir, aimer, avoir des émotions. Tout simplement, on dit le cœur et la raison. Et alors l'esprit, c'est quoi ? Mais je pense que c'est ce qui nous distingue du monde animal. C'est l'esprit qui permet à l'homme d'entrer en contact avec Dieu. En Genèse 2, verset 7, il est écrit, n'ouvrez pas vos Bibles, « Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines l'haleine de la vie et l'homme devint un être vivant. » C'est le souffle de Dieu qui a donné cet homme. Et dans Luc 23, 46, il est écrit « Jésus poussa un grand cri, il dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Revenons à notre texte avec ces petits rappels que je viens de faire sur la vie. Dans le passage que nous avons lu, Marthe est le personnage principal de ce passage et c'est elle qui dialogue avec Jésus et après il y aura Marie. Qui est Marthe? Nous la connaissons bien dans les différents récits des évangiles. C'est une femme active, pleine de bonne volonté, la langue bien pendue et prête à faire des reproches aux uns et aux autres, et même à Jésus. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce reproche qu'elle fait à Jésus, c'est un témoignage de son agacement, un témoignage de sa souffrance, mais c'est aussi le témoignage de sa foi en Jésus qui aurait pu faire le miracle de la guérison de son frère. Comme Marthe, au moment de la maladie ou de la mort, nous nous posons les mêmes questions. Pourquoi Lazare est malade? Pourquoi Lazare est mort? Vous pouvez mettre d'autres noms. Pourquoi Jésus a-t-il laissé mourir Lazare? On se les pose ces questions et on aimerait bien avoir des réponses. C'est vrai qu'au verset 4, qu'on n'a pas lu, il est écrit « Cette maladie servira à la gloire de Dieu ». Je ne sais pas si ça nous console, mais quand ça vous arrive, c'est un peu difficile à avaler. Jésus lui répond gentiment, il lui dit « Ton frère ressuscitera ». Et elle a encore une réponse toute prête, qu'elle a apprise dans son catéchisme avec les rabbins. Et Jésus, dans Jean 5, les versets 28 et 29, le confirme. Si vous voulez bien ouvrir vos Bibles, on va lire Jean 5. Versets 28 et 29, voilà ce qu'elle avait appris. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. C'est Jésus qui parle. Donc, c'est vrai que Marthe connaissait bien son enseignement et elle a dit à Jésus, « je sais que mon frère ressuscitera. » Un peu plus loin, quand Marie rejoint Jésus à l'entrée du village, Marie s'exprime exactement de la même façon que Marthe. On a l'habitude d'idéaliser un peu Marie. Marthe, elle est bonne à travailler et Marie, elle a choisi la bonne part. Mais ici, elle s'exprime exactement de la même façon. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Marie, comme Marthe, souffre et elle demande à être consolée. Jésus n'est pas indifférent, même s'il sait ce qu'il va faire, il n'est pas indifférent à la souffrance de Marthe et de Marie et de tous ceux qui sont là. Jésus est troublé et Jésus pleure. C'est quand même pas habituel. Je pense que c'est la seule fois où c'est écrit que Jésus pleura. Il pleure parce qu'il a des amis qui sont dans la souffrance, qui sont dans le deuil. Ne pensons pas que Jésus plane dans les cieux. Il est proche de nous dans toutes les situations. Et même dans les situations les plus graves que nous pouvons, il est là et il veut nous consoler et il est troublé. Et c'est là que Jésus lui répond, « Je suis la résurrection et la vie. » Et c'est à ce moment-là, quand il dit « Je suis », que se produit un miracle dans le cœur de Marthe. Parce qu'il y a un changement radical. Si vous faites bien attention, elle avait dit avant « Je sais ». Mais à partir de ce moment, elle dit « Je crois ». Elle passe du savoir à la foi. C'est sa conversion. C'est à ce moment-là que pour elle, elle croit. Avant, elle savait, parce qu'elle côtoyait Jésus d'une certaine façon. Mais c'est là, dans ce moment-là, qu'elle dit « Je crois ». Sa réponse est claire. « Je crois que tu es le Christ. Je crois que tu es le Messie. » Parce que Christ, c'est Messie. Tout ce qui se passe à cet instant est la résurrection du cœur de Marthe. Oui, Jésus est celui qui veut la résurrection des cœurs. Celui de Marthe, mais aussi le vôtre. Et seul Jésus peut le faire, et cette résurrection annonce la victoire de la vie. Dans Genèse 3, au verset 3, quand Dieu dit à Adam et Ève, « Si vous mangez du fruit de l'arbre, vous mourrez. » Vous savez comme moi que Adam et Ève ne sont pas morts physiquement, mais leur relation avec Dieu a été rompue. La mort, c'est la fin de notre relation avec Dieu. Mais Dieu n'est pas resté sur cet échec. Il a tout fait pour réconcilier les hommes avec lui. Et c'est Jésus, fait chair, qui a accompli cette œuvre de réconciliation. Mais à quel prix ? On vient de prendre la scène. On a de nouveau redit ce qui s'était passé. Jésus est mort sur la croix. Jésus est ressuscité pour nous réconcilier avec le Père. La perspective de la vie éternelle peut être une profonde consolation, mais elle ne supprime pas le drame de la séparation. L'espérance de retrouver au ciel ceux que nous avons tant aimés nous semble une promesse encore bien lointaine. Lazare est mort. Nos proches sont morts et ils nous manquent. Comment mettre un terme à ce bouleversement tragique de nos vies ? C'était mon premier point que je voulais expliquer. Oui, on peut obtenir la résurrection uniquement si notre cœur est changé et si on accepte le sacrifice de Jésus sur la croix. Mon Mon deuxième point, ce sera la vie avec un grand V. Jésus n'a pas supprimé la mort de Lazare. Il a même attendu avant de venir à Béthanie pour bien montrer que la mort est le processus normal de la vie. Mais si la mort est inéluctable, notre Sauveur a un pouvoir sur la vie pour rendre cette vie plus forte que la mort. Par sa Pâque, le Christ ne vient pas retirer la mort de nos vies, mais quand il dit « Lazare, sort », il montre sa puissance et sa gloire. Il est aussi le maître de la mort. Dans Jean, chapitre 5, verset 24, Jésus dit « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Je pense que cette vie éternelle, je suis sûr que cette vie éternelle commence le jour où on donne notre cœur à Jésus, quand il transforme notre cœur. Donc cette vie éternelle, elle commence ici, sur cette terre. Pas dans l'au-delà, oui, mais tout de suite, on a des vies transformées. Cette vie donnée par Jésus est une vie de qualité profonde et différente de la vie ordinaire. Corps, âme et esprit. Dans les évangiles, il n'y a que 3 résurrections en plus de celle de Jésus. Lazare, que nous venons de parler, le fils de la veuve de Naïn et la fille de Jaïrus. Lazare ressuscité devra affronter les mêmes adversaires que Jésus, qui voudront le faire mourir lui aussi. Dans Jean 12, je vais le lire, dans Jean 12 au verset 11, il est écrit « Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. » Donc, cette vie nouvelle qu'a accordée Jésus à Lazare, ça n'a pas été une vie facile. Des gens se sont ligués dès le départ pour aussi le faire mourir. Quand Jésus ressuscite notre cœur, c'est pour une vie nouvelle. À Lazare, il lui dit « Sors du tombeau !» Et il a fallu enlever des bandelettes. Quand on sort du tombeau, dans cette vie dans laquelle Dieu nous a placés, eh bien, toutes ces bandelettes, il faut les écarter, il faut les éliminer et ne plus se retrouver avec des liens qui nous maintenaient enfermés. À la fille de Jaïrus, vous lirez, il lui dit « Lève-toi ». Au fils de la veuve de Naïn, il lui dit « Lève-toi et parle ». Voilà, je pense que notre vie nouvelle que nous avons, elle est résumée par ces expressions « Sors, lève-toi, avance, marche, parle, témoigne de ta nouvelle vie ». Voilà un beau programme pour chacun d'entre nous sur cette terre, mais pas avec nos propres forces, mais avec l'aide du Saint-Esprit et avec persévérance, comme le dit Jésus. Alors, je ne vais pas vous parler de la vie dans l'au-delà. Ça pourrait être l'objet d'une prochaine prédication, si vous m'invitez. Mais c'est vrai que dans l'au-delà, il est écrit dans Apocalypse 21, verset 4, c'est là que vous passerez l'éternité avec Dieu, là où il n'y a ni pleurs ni deuil. Que le Seigneur vous bénisse.